Chapitre 12. Au chapitre 11, l'apôtre s'est mis en contraste avec les faux frères, mais il s'est gardé de toute mention d'autorité apostolique et spéciale, et il s'est uniquement référé à la manière de vivre et à des expériences qui auraient été possibles pour ses adversaires s'ils avaient été de vrais frères. Dans ce chapitre 12, il parle d'expériences merveilleuses qui dépassent de loin l'expérience chrétienne. Ainsi, dans cette portion de son épître, il ne trace plus un contraste entre lui et les faux frères. Ceux-ci ne sont plus mentionnés, mais il se compare plutôt aux vrais apôtres, n'étant en rien moindre que les plus excellents. Versets 1 à 10. Citation de l'Écriture. Il est vrai qu'il est sans profit pour moi de me glorifier, car j'en viendrai à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui, il y a 14 ans, si ce fut dans le corps, je ne sais, si ce fut hors du corps, je ne sais, Dieu le sait. Je connais un tel homme qui a été ravi jusqu'au troisième ciel. Et je connais un tel homme, si ce fut dans le corps, si ce fut hors du corps, je ne sais, Dieu le sait, qu'il a été ravi dans le paradis et a entendu des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à l'homme d'exprimer. Je me glorifierai d'un tel homme, mais je ne me glorifierai pas de moi-même, si ce n'est dans mes infirmités. Car quand je voudrais me glorifier, je ne serais pas insensé, car je dirais la vérité. Mais je m'en abstiens, de peur que quelqu'un ne m'estime au-dessus de ce qu'il me voit être ou de ce qu'il a pu entendre dire de moi. Et, afin que je ne m'énorgueillisse pas à cause de l'extraordinaire des révélations, il m'a été donné une écharde pour la chair, un ange de Satan pour me souffleter, afin que je ne m'énorgueillisse pas. À ce sujet, j'ai supplié 3 fois le Seigneur, afin qu'elle se retirât de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans l'infirmité. Je me glorifierai donc très volontiers, plutôt dans mes infirmités, afin que la puissance du Christ demeure sur moi. C'est pourquoi je prends plaisir dans les infirmités, dans les outrages, dans les nécessités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, alors, je suis fort. Fin de citation. L'apôtre parle de vision et de révélation du Seigneur. Il raconte une expérience remarquable dont il avait bénéficié 14 ans auparavant. Un chrétien à l'esprit charnel se serait sans doute immédiatement vanté d'une telle expérience, et cela à maintes reprises. Mais l'apôtre réalisait qu'il ne convenait pas de se glorifier, et il s'était abstenu de toute allusion à cette expérience pendant 14 ans. Il venait juste de parler d'une expérience humiliante dans le corps. Chapitre 11, verset 33. Et maintenant il nous parle d'une expérience merveilleuse qu'il avait connue comme un homme en Christ. Celui qui avait connu sur la terre ce que c'est d'être dévalé dans une corbeille a connu aussi l'immense privilège d'être ravi jusqu'au troisième ciel. Le troisième ciel parle de la demeure de Dieu. Il y a les cieux atmosphériques, puis les cieux étoilés, et enfin le troisième ciel où se trouve le trône de Dieu. L'apôtre parle du troisième ciel comme étant le paradis, ce qui en indique la béatitude comme étant celle d'une scène de joie, de beauté et de gloire, un jardin de délices où on ne verra jamais aucune ombre de mort. Il prend soin de nous dire que ce n'était pas comme homme dans la chair qu'il a été ravi, mais comme un homme en Christ. Dans une autre épître, il parle de ses avantages naturels comme homme dans la chair, mais ce n'était pour lui que des ordures. Par contre, il pouvait à juste titre se glorifier de sa position et de ses privilèges comme homme en Christ, car toutes les bénédictions de notre position en Christ, nous les devons à Christ. Ravi au paradis, il n'était plus conscient du corps avec ses besoins et ses faiblesses. Il avait entendu là des choses dont il serait entièrement déplacé de parler, même à des chrétiens, tandis qu'ils sont encore sur la terre et dans ces corps mortels. Néanmoins, rappelons-nous que, bien que nous ne fassions pas d'expérience miraculeuse comme celle d'être ravi au troisième ciel, tout ce qui a été révélé à l'apôtre lorsqu'il a été ravi appartient pourtant au plus simple croyant comme étant en Christ. Jusque-là, l'apôtre n'avait pas parlé de cette merveilleuse expérience, de peur qu'en s'en glorifiant, il pût donner l'impression qu'il était plus grand spirituellement qu'il n'apparaissait dans sa vie réelle ou par les rapports entendus à son sujet. Quelle leçon pour nous tous de nous garder de l'esprit prétentieux et outrecuidant qui nous est si naturel et qui se saisit volontiers de certaines expériences frappantes pour nous élever et chercher à donner aux autres l'impression d'une spiritualité et d'un dévouement que nous ne possédons pas en réalité. Aussi élevées qu'aient été les expériences dont l'apôtre avait bénéficié, la chair était encore en lui, tandis qu'il était encore dans ce corps. Et la chair, bien que se montrant sous différentes formes, n'est pas différente, quant à sa nature, chez un apôtre, de ce qu'elle est chez tout autre homme. Nous devons apprendre qu'en la chair il n'y a pas de bien. Romains 7, verset 18. Qu'elle ne change jamais, et qu'en nous-mêmes nous n'avons aucune force contre elle. Après une telle expérience, la chair, même d'un apôtre, pouvait agir, conduisant à s'exalter en suggérant qu'aucun autre apôtre n'avait été ravi au troisième ciel. Afin qu'il soit gardé conscient de sa propre faiblesse, une écharde lui a été envoyée pour lui rappeler que, tant qu'il était encore dans le corps, il était entièrement dépendant de la puissance du Seigneur pour le préserver de l'action de la chair. L'apôtre ne dit pas directement ce qu'était cette écharde. C'était apparemment une faiblesse corporelle tendant à rendre l'apôtre méprisable ou insignifiant aux yeux des hommes, et qui faisait contrepoids à ses visions et révélations miraculeuses qui auraient pu l'élever devant les hommes. Remarquons cependant que l'écharde a été permise, non pas pour corriger quelque chose de mauvais chez l'apôtre, mais plutôt préventivement contre la vantardise charnelle, et aussi pour lui donner un sentiment plus profond de sa dépendance du Seigneur. Jugeant que son écharde était un obstacle à ses services, l'apôtre a supplié trois fois le Seigneur de la lui ôter. Le Seigneur a répondu à sa prière, mais il n'a pas accordé sa requête. Deux grandes vérités lui ont été dites, dont nous avons tous besoin de nous souvenir. Premièrement, que la grâce du Seigneur est suffisante pour soutenir dans toutes les épreuves. Et deuxièmement, que notre faiblesse n'est que l'occasion de manifester sa puissance. Voyant que cette infirmité empêche la chair de se vanter et devient l'occasion de manifester la grâce et la puissance de Christ, l'apôtre se glorifie désormais de la faiblesse même dont il voulait être débarrassé. Ainsi, il peut prendre plaisir dans les choses mêmes dont nous avons tant horreur comme hommes naturels. Les faiblesses, les insultes, les nécessités, les persécutions, les détresses. Toutes des choses subies pour l'amour de Christ et qui, tout en manifestant la faiblesse du corps, manifestent également la puissance de Christ, de sorte que l'apôtre peut dire « Quand je suis faible, alors je suis fort ». Versets 11 à 15. Citation de l'Écriture. Je suis devenu insensé. Vous m'y avez contraint. Car moi j'aurais dû être recommandé par vous, car je n'ai été en rien moindre que les plus excellents apôtres, quoique je ne sois rien. Certainement les signes d'un apôtre ont été opérés au milieu de vous, avec toute patience, par des signes et des prodiges et des miracles. Car en quoi avez-vous été inférieur aux autres assemblées, sinon en ce que moi-même je ne vous ai pas été à charge? Pardonnez-moi ce tort. Voici, cette troisième fois, je suis prêt à aller auprès de vous, et je ne vous serai pas à charge, car je ne cherche pas vos biens, mais vous-même. Car ce ne sont pas les enfants qui doivent amasser pour leurs parents, mais les parents pour leurs enfants. Or, moi, très volontiers, je dépenserai et je serai entièrement dépensé pour vos âmes, si même, vous aimant beaucoup plus, je devais être moins aimé. Fin de citation. L'apôtre sent toujours que parler de soi est une folie, tant en rapport avec les visions et les révélations dont il a bénéficié en étant ravi au troisième ciel, qu'avec les faiblesses et les détresses pour l'amour de Christ dont il avait souffert sur la terre. Voyant cependant que les saints de Corinthe qui auraient dû le recommander manquaient de le faire, il est contraint de se justifier. Il aurait dû rendre témoignage à la vérité qu'en rien il n'était moindre que les plus excellents apôtres, même si, à cause de ses infirmités dans la chair, il pouvait être méprisé comme ne valant rien aux yeux du monde. N'avait-il pas manifesté les signes d'un apôtre au milieu d'eux, par toute patience, accompagné de signes et de prodiges et de miracles? S'était-il senti humilié de ce qu'il avait refusé l'aide de l'assemblée? Si oui, qu'il lui pardonne ce tort. Si ce troisième projet de venir vers eux se réalisait, Il ne voulait pas leur être à charge, car il voulait qu'ils apprennent que son cœur ne recherchait pas leur argent, mais voulait les gagner, eux. Il voulait être parmi eux comme un donateur et non un receveur, même si son amour n'était guère apprécié. Versets 16 à 21. Citation de l'Écriture. Mais soit. Moi, je ne vous ai pas été à charge, mais, étant rusé, je vous ai pris par finesse. Me suis-je enrichi à vos dépens, par aucun de ceux que je vous ai envoyés? J'ai prié Tite et j'ai envoyé le frère avec lui. Tite s'est-il enrichi à vos dépens? N'avons-nous pas marché dans le même esprit? N'avons-nous pas marché sur les mêmes traces? Vous avez longtemps pensé que nous nous justifions auprès de vous. Nous parlons devant Dieu, en Christ, et toutes choses, bien-aimées, pour votre édification. Car je crains que, quand j'arriverai, je ne vous trouve pas tel que je voudrais, et que moi je ne sois trouvé par vous tel que vous ne voudriez pas, et qu'il y ait des querelles, des jalousies, des colères, des intrigues, des médisances, des insinuations, des enflures d'orgueil, des désordres, et qu'étant de nouveau revenu au milieu de vous, mon Dieu ne m'humilie quant à vous, et que je ne sois affligé à l'occasion de plusieurs de ceux qui ont péché auparavant, et qui ne se sont pas repentis de l'impureté et de la fornication et de l'impudicité qu'ils ont commises. Fin de citation. En outre, il déjouait la triste insinuation que, tout en refusant une aide directe, il avait utilisé d'autres personnes pour profiter d'eux. Il avait en effet envoyé Tite et un autre frère pour servir parmi eux. Ceux-ci n'avaient-ils pas marché dans le même esprit que l'apôtre et refusé toute aide? En outre, l'assemblée à Corinthe pouvait penser qu'en parlant ainsi de lui-même, il cherchait simplement à se justifier. À cette objection, il répond en toute solennité qu'il avait autant conscience d'être devant Dieu quand il déclarait être motivé par l'amour qui cherchait leur édification. Du fait qu'il les aimait et désirait leur édification, il n'hésitait pas à leur faire part de ses craintes. Il redoutait de venir auprès d'eux et de les trouver dans un état éloigné de ce qu'ils voudraient, et de devoir, par conséquent, prendre à leur égard une attitude qu'ils ne voudraient pas. Malgré le bon effet de sa première épître, l'apôtre persistait à redouter qu'à cause des faux frères et des ouvriers trompeurs dont il avait parlé, il pourrait trouver parmi eux des querelles, des jalousies, des colères, des intrigues, des médisances, des insinuations, des enflures d'orgueil, des désordres. Au pire, il craignait d'être humilié par l'affliction de voir l'absence de repentance chez plusieurs qui avaient péché. Ainsi, comme on l'a souvent remarqué, ce chapitre 12, qui commence avec les plus hauts privilèges d'un chrétien dans le paradis, se termine par les péchés les plus bas dans lesquels un chrétien peut tomber sur la terre. Dans un cas, nous voyons la béatitude d'être en Christ, dans l'autre, la solennité de laisser agir la chair en nous. Entre ces deux extrêmes, nous voyons la puissance de Christ, disponible pour nous contre la chair, malgré toute notre faiblesse. Ayant appris quelque chose du mal intégral de la chair et de notre propre faiblesse pour lui résister, combien il est bon de nous remettre chaque jour dans les mains du Seigneur et reconnaissons en même temps que la chair est en nous, dans toute sa méchanceté irrémédiable, prête à se manifester à tout moment par les péchés les plus grossiers et qu'en nous, il n'y a aucune force pour lui résister. Partant de cette base, combien il est bon alors de découvrir que sa puissance est disponible pour nous dans toute notre faiblesse. Ainsi, nous sommes délivrés de nos propres efforts pour contrôler la chair et amenés à nous tourner vers le Seigneur Jésus pour nous garder.